you really ready?
You can't be serious. You cannot be serious.
J'adore le tennis.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Oxytennis, votre rendez-vous mensuel du tennis en Haute-Garonne et tout autour sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Aujourd'hui dans Oxytennis, nous allons parler d'argent.
Ah si j'étais riche. Tout le jour je bidibidiboule, si j'en avais plein les poches.
Et plus précisément, de ce que gagnent les joueuses et les joueurs de tennis sur le circuit professionnel.
Si j'avais du bidibidiblé, dig daidl diddle daidl à moi.
Pour les néophytes, les tournois féminins WTA et masculins ATP se répartissent en plusieurs catégories qui déterminent les gains financiers, les prize money en anglais, et le nombre de points récoltés en fonction de leur victoire. Sur le circuit professionnel des dames WTA, nous avons le top niveau avec les 4 tournois du Grand Chelem, ensuite le Master féminin en fin de saison, et quelques 65 tournois de 4 catégories distinctes. Le circuit ITF Tour féminin regroupe les tournois les moins bien dotés. Chez les messieurs, 3 catégories sont assimilables à des divisions. Au sommet, les tournois du Grand Chelem, les Masters, toujours en fin de saison, et le circuit ATP. Dans la division intermédiaire, les Challenger Tour, en troisième division, l'ITF Tour masculin. Malgré l'annulation de plusieurs dizaines de tournois, le tennis mondial a tout de même distribué des sommes considérables à ses meilleures joueuses et joueurs. Les messieurs restent toujours les grands bénéficiaires du circuit professionnel, du moins dans le très haut niveau. Les chiffres que nous allons mentionner sont issus des informations publiées par la WTA et l'ATP et ne concernent que les gains sportifs. Le magazine Forbes classe Federer en tête de la planète tennis avec 770 millions d'euros de revenus extra-sportifs pour un peu plus de 111 millions d'euros gagnés sur les courts depuis le début de sa carrière. Il devient ainsi le 6e sportif à atteindre le milliard de dollars de gains, mais tout ceci avant impôts, commissions à ses agents et rémunération de son staff. Dans le top 5 historique des gains acquis durant leur carrière, nous retrouvons Djokovic, Federer, Nadal, Murray et Sampras, qui totalisent 437 millions d'euros. Jim Connors, qui détient toujours le record à battre du nombre de tournois remportés en simple avec 109 titres, est resté bloqué à un peu plus de 7 millions d'euros. Les Williams Sisters, Sharapova, Halep et Wozniacki ne se sont partagés que un peu plus de 211 millions d'euros. Martina Navratilova, 167 tournois au compteur, mais 17 millions d'euros quand même. Le dernier classement hebdomadaire de la WTA du 27 septembre indique que depuis le début de la saison 2021, les 5 meilleures joueuses mondiales engrangent à peine 13 millions d'euros. La Française Caroline Garcia n'a embauché qu'un peu plus de 484 000 euros en étant classée à la 59e place. À la même date, ce sont 19 millions d'euros qui ont été distribués à Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev et Rublev. Le Serbe s'adjuge un tiers de cette somme.
Ah, si j'étais riche. Tout le jour, je bidibidiboule, si j'en avais plein les poches.
20e au classement ATP, Gaël Monfils affiche 658 000 euros de gains sur les cours. Intéressons-nous à ce qui se passe dans les profondeurs des classements. Si les 100 premières ou premiers vivent très bien du tennis, les 100 suivants gagnent de l'argent. Pour les 100 suivants, ça se complique. Tous les autres bouclent à peine leur budget, survivent, n'épargnent rien. En 2021, le 300e mondial n'a gagné que 72 000 euros. C'est beaucoup, mais pas assez pour s'assurer une participation régulière dans le tournoi en finançant les voyages et un coach les bonnes semaines. À partir de la 500e place, même avec de très bons résultats, les gains passent largement sous la barre des 20 000 euros. Et là, le solde est largement négatif. Le circuit féminin WTA 2021 liste un peu plus de 2000 joueuses ayant touché des dollars. Le peloton de queue compte 128 joueuses qui ont gagné 37 dollars. Chez les 2677 messieurs de l'ATP, 185 ont gagné 54 dollars. Pour illustrer la maigreur des revenus sur le circuit secondaire, le témoignage de la Française Sara Kakarevich, 401e joueuse mondiale en mai dernier, nous éclaire sur ses gains lors d'un tournoi ITF à Prague avec 25 000 dollars de dotation globale. Pas assez bien classée pour accéder au tableau final, elle doit passer par les qualifications où 32 joueuses vont s'affronter pour désigner les 8 qualifiés. Pas de chance, Sara perd de justesse au troisième set du premier tour. Prize money promise au perdant, 45 euros. On prélève un peu de taxes, 6,75 euros. Ah oui, on règle l'engagement au tournoi, 36 euros. Au final, 2,25 euros de gain.
You can't be serious. You cannot be serious.
Et maintenant, place à notre invité. Nous recevons un ex-joueur professionnel qui a fréquenté les circuits Challenger et Futur en atteignant la 370e place mondiale. En 2015, il devient l'entraîneur de son frère Julien. Producteur de documentaires et de podcasts, écrivain, Antoine Beneteau est avec Laurent Binet, le co-auteur chez Plon de l'excellent dictionnaire Amoureux du tennis que je recommande à tous. Bonjour Antoine.
Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission.
C'est avec grand plaisir. Par une phrase que Zola aurait pu écrire, certains joueurs ont puisé leur rage d'arriver dans une certaine pauvreté. Vous évoquez dans votre livre les tournois du circuit ITF, la troisième division du tennis mondial. La réalité est-elle aussi sombre ?
Oui, elle peut l'être. En fait, sur le circuit secondaire, il y a toutes sortes de joueurs. Il y a des joueurs qui sont des jeunes joueurs qui sont là pour... c'est juste un passage pour eux. C'est des jeunes, des juniors souvent, qui doivent gagner leur premier point ATP, puis... Ils ont un tel niveau de jeu moyen que très vite ils passent cette étape-là et ils passent au circuit d'après, Challenger, et puis on les voit très fort. Donc, on peut parler des, par exemple, des Tsitsipas où moi j'ai vu passer des Dominic Thiem et on voyait clairement que c'était des joueurs qui n'allaient pas rester sur ce circuit-là. Après, il y a d'autres joueurs qui, comme moi, c'est un peu plus lent et même qu'il y en a qui ne s'en sortent pas. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu des partenaires de galère sur ce troisième circuit. Et là, c'est vrai qu'il faut se débrouiller, essayer de limiter les dépenses au maximum. Et il faut trouver des astuces, partager les chambres, ça. Il y a des joueurs qui n'ont pas la chance en plus d'avoir, des parents qui peuvent les soutenir au début ou qui n'ont pas de sponsors, qui viennent de pays où il n'y a vraiment pas de moyens. Pas aidé par la fédération. Et donc là, effectivement, dans ces moments-là, c'est vrai que réussir, c'est une obligation, quoi. Sinon, ils ne peuvent pas rester aussi longtemps qu'ils le voudraient.
Le budget d'une saison d'une joueuse ou d'un joueur classé aux alentours de la 300e place mondiale, c'est combien en se limitant à un circuit européen ?
Je dirais que ça doit se situer entre 30 000 et 50 000 euros l'année. Bien sûr, savoir que le joueur paye tout. C'est billets, c'est donc d'avion, de train, c'est chambre d'hôtel, c'est cordage. Moi, il m'arrivait, je partais parfois en dehors de l'Europe, mais même en Europe, il m'arrivait d'aller pas très loin de Paris, mais de devoir faire une ou deux escales pour essayer de gagner 100, 200 euros pour économiser, parce que toutes les économies étaient bonnes à prendre.
Oui, donc en tournant bien, un joueur peut au maximum récolter 20 000 euros, quoi. Une grosse saison de Challenger en futur, ça peut être ça, quoi.
Oui, et puis, déjà en tournant bien, quand on est 300e mondial, en faisant des matchs par équipe à côté dans des clubs et tout ça, si on arrive à finir l'année à zéro, c'est-à-dire en zéro perte, c'est déjà pas mal.
Bon, pour citer parmi les plus grands, Novak Djokovic a débuté en 2003. Dès juin 2005, il entre dans le top 100. Un an plus tard,
dans le top 50. En mars 2007, il est dans le top 10. Il en est pratiquement pas ressorti, à part une interruption de quelques mois pour des raisons de blessure. Une progression si rapide, c'est un talent exceptionnel, un entraînement d'une énorme exigence, mais aussi un investissement financier.
Oui, alors, c'est les trois en même temps, bien sûr. Et là, ce qui était plus dur, je pense, pour Novak Djokovic, c'est de sortir voilà, de ce pays qui est c'est un enfant de la guerre. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est ça qui a été le plus dur, c'est ce premier impact, cette première impulsion. Après, il a été très vite identifié comme un grand espoir du tennis mondial. Donc, lui, pour le coup, je pense que financièrement, à partir de 15, 16, 17 ans, il devait avoir des aides, que ce soit de sponsors ou même de son pays et de sa fédération, parce que voilà, il était déjà identifié comme grand espoir du tennis mondial. Moi, je me souviens, on avait joué le même tournoi, c'était à La Baule, c'était le Derby Cadet, ça s'appelait à l'époque. Je sais pas, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Il avait déjà un agent, il y avait déjà voilà des intérêts autour de ce jeune joueur parce qu'il montrait un talent déjà hors norme et énorme. Donc et puis il l'a prouvé par la suite. On a affaire à des joueurs voilà vraiment qui eux ont les qualités de base ou qui les ont développées, ils ont travaillé bien sûr, mais très vite on sentait que voilà il allait passer cette étape-là des futurs.
Eh bien, merci beaucoup Antoine pour cet éclairage. Je pense que ça va énormément intéresser nos auditeurs.
Eh bien, avec grand plaisir.
Avant d'envisager de gagner 3 sous en tant que professionnel du tennis, il faut apprendre à servir, et plutôt bien servir. Vincent, notre coach, nous livre ses recettes techniques, tactiques, physiques et mentales. Bonjour coach.
Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver, et pas pour n'importe quel sujet, puisque l'on va aujourd'hui parler du service. Il y a tellement à dire sur ce point que j'essaierai d'être le plus clair possible, en l'abordant au travers des quatre aspects fondamentaux que sont la technique, la tactique, le physique et le mental. Sur le plan technique donc, le service présente cette particularité de frapper une balle que l'on s'envoie soi-même. Il demande donc au niveau gestuel une coordination entre les deux bras, d'une part, celui qui lance la balle et celui qui va la frapper, ainsi qu'une coordination entre le haut du corps et le bas du corps, d'autre part. En effet, on a trop tendance à se concentrer prioritairement sur la partie haute, étant donné que la balle est lancée en l'air. Pourtant, ce qui va permettre à la balle d'être expulsée de l'autre côté du filet pour arriver dans les carrés de service avec une certaine vitesse ou un certain effet, c'est bien la flexion suivie de la poussée des jambes. La balle doit être lâchée à hauteur des yeux pour être frappée bras tendu au-dessus du front. Le regard doit être fixé sur le contact avec la balle au moment de la frappe. Il est également important de mettre en avant le relâchement global au niveau musculaire à partir des épaules, du dos et des bras. Techniquement, ça reste le geste le plus difficile à réaliser au tennis. Sur le plan tactique, parce qu'il est justement techniquement difficile à maîtriser, cela va forcément dépendre des sensations du jour. C'est un coup qui peut apporter en début de match, puis se dérégler en cours de match, et inversement. Il faut donc s'adapter en permanence, afin de s'en servir comme une arme lorsqu'on est en confiance, varier les zones en servant fort ou avec un effet, et pourquoi pas effectuer des services volés. Ou bien s'adapter au mieux lorsque l'on est moins en confiance, en forçant un peu moins, mais surtout en augmentant le pourcentage de réussite au premier service, car sinon, les sanctions des doubles fautes risquent de tomber, les fautes sur deuxième service qui nous font perdre un point pour les moins connaisseurs. Pour certains, le service est au cœur de leur approche tactique. Je pense en particulier aux grands gabarits, qui misent beaucoup sur leur efficacité et qui en profitent pour réduire les échanges en privilégiant leur puissance ou leur taille. On le voit également à haut niveau avec des joueurs de plus en plus grands, qui arrivent à s'imposer quasiment juste avec leur qualité de très bon serveur. Sur le plan physique, on en déduit donc, au-delà du rôle des jambes et du relâchement dont j'ai parlé dans la partie technique, que la taille peut avoir son importance, mais pas que. On parlera surtout d'explosivité pour rendre ce coup efficace. Il demande effectivement un bon ancrage au sol afin de puiser de la force dans l'énergie du sol par des appuis rapprochés au niveau des pieds. Ensuite, la flexion-extension des jambes va favoriser le transfert du poids du corps vers le haut et l'avant, un peu à la manière d'un saut en hauteur. Le mouvement du haut du corps venant s'enchaîner aussitôt avec la rotation du bassin et des épaules pour finir par le passage du coude et du poignet, permettant d'y rajouter de la vitesse. Sur le mental, enfin, c'est un véritable défi en termes de concentration. L'exigence technique ainsi que l'intention qui doit être claire et précise au moment de servir demandent de prendre son temps. Le temps de respirer, de se relâcher, de visualiser son geste ou la zone à viser pour ceux qui y arrivent. Le temps de rester dans sa bulle, comme l'on dit, de faire abstraction de ce qu'il se passe autour, ou de rester centré sur l'objectif lorsque nos pensées s'évadent. Le gain ou la perte de confiance peuvent apparaître ou disparaître d'un seul coup, soit en rapport avec ses propres sensations comme déjà évoqué, soit en rapport avec la qualité de celui ou de celle qui retourne en face. C'est pourquoi, la prochaine fois, je mettrai en avant l'importance des débuts de points ou d'échanges au tennis. Je vous souhaite donc de beaux échanges avec ou sans raquette, et à bientôt.
Et voici notre quiz tennis avec notre partenaire Sport 2000 de Caser et Fonsorbe. Sport 2000. En septembre, nous vous posions la question « À quoi correspondent 3700 tours ?» Le comité olympique canadien a mesuré la rotation moyenne d'une balle de tennis entre Rafael Nadal et Roger Federer. Si l'Espagnol balance des coups droits à 3200 tours par minute, le Suisse est plus performant, en revers avec 3700 tours. La bonne réponse nous vient de Montesquieu Volvestre, et c'est Joris Rest qui a été le plus rapide.
15-30.
Prêt pour un nouveau quiz tennis ? Attention, la question est assez longue, soyez très attentifs. Pour l'instant, Novak Djokovic n'est jamais entré dans le club très fermé des vainqueurs des tournois du Grand Chelem durant la même année. Australie, Roland-Garros, Wimbledon, Flushing Meadows. Seules trois dames et deux messieurs ont réalisé cet exploit, toujours inégalé depuis 1988. Qui sont ces cinq vainqueurs? Vous pensez avoir la bonne réponse? Pour jouer, c'est très simple. Allez sur le site radiogalaxy31.com. Cliquez sur l'image Occitennis pour répondre. La première personne à donner la bonne réponse se verra remettre un cadeau offert par notre partenaire Sport 2000 avec les magasins de Caser et Fonsorbe. Toute l'équipe d'Occitennis vous donne rendez-vous le samedi 6 novembre à 12h30 sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. D'ici là, soyez prudents et revenez vite sur les cours. Vous pouvez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Occitennis de radiogalaxy31.com.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café?
Je peux pas, j'ai tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.